Vous écoutez, on lit pour vous.
Quoi penser de la géolocalisation en couple? Un texte de Maude Goyer, paru le 17 août 2025 dans la presse. La géolocalisation entre partenaires est une pratique plus répandue qu'on pourrait le croire. Les couples sont nombreux à n'y voir que des avantages, notamment d'un point de vue de logistique et d'organisation familiale. Mais les dérives sont possibles, signalent les experts. J'ai commencé à géolocaliser mon conjoint dès que j'ai su que ça se pouvait. En couple depuis 20 ans et mère d'une adolescente, Nathalie Cardin est une adepte de la géolocalisation. Elle le fait avec son conjoint, avec sa fille et avec ses parents. Dans son couple, cela lui permet de planifier l'horaire, de prévoir le souper, par exemple. Mon chum travaille sur la route. Il est souvent en déplacement, confie la femme qui habite la rive sud de Montréal. Il n'est pas toujours disponible pour prendre mes appels, alors je regarde où il est au lieu de le texter et d'attendre sa réponse. C'est plus efficace. La planification des repas est aussi le premier argument de Marie-Claude Vachon de la région de Québec. S'il me manque de la farine, je peux voir s'il peut arrêter, si c'est sur son chemin, et je peux aussi calculer combien de temps ça va lui prendre pour arriver. C'est pratique. Et puis, on n'a rien à se cacher. Transparence à tout prix. Ne rien avoir à se cacher. La remarque est intéressante, puisqu'elle laisse entendre que la géolocalisation est normale, voire banale. Pour la professeure de sociologie, Chiara Piazzesi, les couples d'aujourd'hui vivent avec une injonction de transparence. Les jardins secrets sont de moins en moins acceptables, dit-elle. En effet, on peut se demander comment on fait pour s'opposer à une demande de géolocalisation, comme si ça voulait dire automatiquement que l'autre a quelque chose à cacher. Chiara Piazzesi rappelle qu'il existe un cadrage normatif propre à notre époque dans un couple. De nos jours, un couple doit être capable de parler de tout, d'être authentique, transparent, d'avoir une communication ouverte, et ce, en tout temps, explique-t-elle. La géolocalisation dans le couple s'inscrit dans ce paradigme. Est-ce que je vais devoir m'expliquer et rendre des comptes parce que j'arrête prendre un café avant de rentrer à la maison? Se demande l'experte. Une intrusion? Cette idée fait grimacer Victor Henriquez. Pour ce père de famille, la géolocalisation dans le couple est une hérésie. « Je n'ai pas besoin de micro-pucer ma blonde », lance-t-il. En couple depuis 13 ans, il décèle dans cette pratique un manque de confiance et un besoin de contrôle, qu'il s'explique mal. « Pour moi, dit-il, ça rentre dans un cercle d'intrusion, et puis, ça s'arrête où ?» Jannick Latulippe est en couple depuis 10 ans. Elle ne croit pas à la géolocalisation qu'elle qualifie de « fausse bonne idée ». Il y a tellement de façons de se joindre maintenant, dit-elle. Je ne comprends pas pourquoi les gens se géolocalisent. Je trouve que ça part d'une anxiété, d'une jalousie ou d'un besoin de contrôle. Pourquoi vous ne vous parlez pas à la place? Selon Simon Lapierre, professeur à l'École de travail social de l'Université d'Ottawa, la géolocalisation peut être un outil fort utile pour un partenaire contrôlant ou violent qui souhaite surveiller l'autre partenaire. S'il n'y a pas d'enjeu de contrôle ou de contexte de violence dans le couple et que les deux personnes sont consentantes, je ne vois pas la géolocalisation comme un problème, dit-il, mais il faut savoir que les dérives sont possibles. Il peut y avoir des effets pervers. Nourrir l'insécurité. Chez une personne anxieuse ou qui a des tendances contrôlantes, par exemple, cela vient nourrir son besoin sans régler le problème de fond. Ça s'inscrit dans quelle dynamique de couple? Est-ce que la géolocalisation est une béquille? Quels sont les traumatismes, le parcours et le passé des deux personnes? Demande Kanika Safan, fondatrice de Sofa Sexologie. La spécialiste en sexologie, Kanika Safan, ne rejette pas l'idée que ce soit purement un facilitateur technologique, une aide à l'organisation, mais elle souligne qu'il faut s'entendre sur le besoin à combler et s'assurer d'être d'accord. On a tous des prédispositions à se sentir en sécurité ou inquiet. Si une personne ressent le besoin de géolocaliser l'autre pour être rassurée parce que l'autre ne réussit pas à le faire verbalement, c'est un problème. On peut être devant un enjeu de santé mentale où le diagnostic sert d'excuse. Simon Lapierre est aussi d'avis que la géolocalisation dans un jeune couple soulève des questions. Dans un jeune couple, en début de relation, où on apprend les valeurs de la confiance, de l'égalité et de ce qui est sain ou malsain, pourquoi ressentir ce besoin de savoir où est l'autre, note-t-il, ajoutant qu'il se demande quel message est intégré par les jeunes qui se font géolocaliser par leurs parents ou voient leurs parents adopter cette pratique. C'était Quoi penser de la géolocalisation en couple? Un texte de Maude Goyer paru le 17 août 2025 dans La Presse.
À qui profite le boycottage des vins américains? Un texte de Mathieu Carbas paru le 19 juillet 2025 dans Le Devoir. Alors que la guerre commerciale entre les États-Unis et le Canada bat son plein, les importations de vins américains s'effondrent au pays. Les exportateurs européens, néo-zélandais ou australiens en profitent, à l'instar des producteurs québécois. Explication. Fini les soupers d'été arrosés d'un pinot noir de l'Oregon ou d'un merlot californien. Depuis le mois de mars 2025, les vins américains ne sont plus en vente sur les tablettes de la majorité des provinces et des territoires du pays, puisque seuls l'Alberta et la Saskatchewan en autorisent désormais l'achat et la distribution. À l'échelle du pays, ces 4 mois d'embargo ont donc fait plonger dans le rouge les importations viticoles en provenance des États-Unis. Les ventes de vins américains vers le Canada ont ainsi reculé de près de 58 % au cours des 5 premiers mois de l'année, selon les données de Statistiques Canada. Au printemps, les importations de vins américains se sont même totalement effondrées, passant de 144 millions de dollars pour les mois de mars, avril et mai 2024 à 17 millions sur la même période de 2025, soit un recul de près de plus de 88 %. Les dernières données mensuelles disponibles donnent encore plus le vertige, puisqu'en mai 2025, le Canada a importé pour 1,1 million de dollars de vins américains, alors qu'il n'en avait importé 45,4 millions en mai 2024. Il s'agit là d'une chute record de près de 98 %, et d'une tendance qui pourrait se maintenir tant qu'aucune entente commerciale n'est trouvée entre les États-Unis et le Canada. Selon les données compilées par l'Association américaine des économistes du vin, AAWE, le Canada pesait en avril 2024 pour près de 34 % des exportations de vins américains et représentait le premier marché d'exportation des vins américains et de loin. 12 mois plus tard, le Canada ne représente plus que 3,9 % de ce total. Plusieurs pays en profitent. Il n'y a pas qu'à destination du Canada que les exportations de vins américains se sont effondrées. Les données du gouvernement américain reprises par l'AAWE montre que les exportations de vins américains ont chuté globalement de plus de 41 % au mois d'avril 2025, aggravant la baisse de 28 % déjà enregistrée en mars 2025. Certains marchés d'exportation de premier plan se sont considérablement contractés. En avril 2025, les 3 principales destinations des exportations, en valeur, de vins américains, le Canada, moins 93 % le Royaume-Uni moins 29 % et la Chine moins 70 % ont toutes enregistré des baisses considérables. les vins américains ayant disparu des tablettes de la Société des alcools du Québec, SAQ, de la LCBO en Ontario ou encore de la BC Liquor en Colombie-Britannique, certains pays exportateurs en ont profité, selon Statistique Canada. Sur les 5 premiers mois de l'année, les importations de vins en provenance de la Nouvelle-Zélande et d'Australie ont ainsi augmenté de près de 24 %. Celles de France ou d'Italie ont progressé respectivement de 20 % et de 9 %, les deux pays étant historiquement les deux principales sources d'importation du Canada devant les États-Unis. À commencer par les producteurs québécois. Parmi les autres gagnants du boycottage des vins américains, il y a aussi les producteurs viticoles du Québec. Selon les chiffres transmis au Devoir par la SAQ, les ventes de vins québécois ont progressé de plus de 60 % depuis le mois de mars 2025 en comparaison avec la même période en 2024. Si cette hausse est attribuable en partie au contexte politique et économique, elle est également stimulée par le regain d'intérêt des consommateurs pour l'achat local, avance Mathieu Beauchemin, copropriétaire du domaine du Nival et président du Conseil des vins du Québec. Cette progression s'inscrit dans une tendance de fond à la hausse pour les vins du Québec, amorcée avant même ce contexte, explique M. Beauchemin, qui souligne également les efforts entrepris par la SAQ pour mettre en avant les vins d'ici sur ses tablettes depuis le début du boycottage. Selon les données du Conseil des vins du Québec, la catégorie des vins Origine Québec avait déjà terminé l'année 2024 avec une hausse des ventes à la SAQ de plus 16 % par rapport à l'année précédente. Une performance d'autant plus notable que les ventes pour l'ensemble des vins du Québec à la SAQ avaient reculé de 1 %. L'actualité économique vient donc donner aux producteurs de la province une bonne tape dans le dos. Quand on lui demande si cette tendance pourrait durer dans le temps, M. Beauchemin répond sans optimisme démesuré. « Je pense que oui. On sent un mouvement vers la consommation locale. » Un peu comme durant la pandémie. Il va certainement y avoir un ralentissement à un moment, mais c'est un peu comme si on montait un escalier. On monte deux marches, on redescend parfois d'une marche, mais on continue de monter. En témoigne aussi la forte hausse de la production viticole québécoise, qui a atteint 4,5 millions de bouteilles en 2024, contre 3,5 millions en 2023. Selon les prévisions du Conseil des vins du Québec, 7 millions de bouteilles devraient être produites au Québec en 2030. C'était « À qui profite le boycottage des vins américains ?» un texte de Mathieu Carbas paru le 19 juillet 2025 dans Le Devoir.
Les adultes d'âge mûr sont débordés par leurs différents rôles. Un texte de Gail Lowe et Gloria Gottman paru le 17 septembre 2025 dans La Conversation. Au Canada, les adultes d'âge mûr constituent l'une des ressources les plus importantes, mais aussi les plus sollicitées et les moins reconnues. Ils s'occupent discrètement de la santé et du bien-être de millions de personnes, jeunes et âgées, en présence ou à distance. D'août 2024 à juillet 2025, les adultes canadiens de 55 à 64 ans ont collectivement travaillé plus de 100 millions d'heures par mois dans un large éventail de professions telles que le commerce de détail, le droit, l'ingénierie et les soins de santé. À cela s'ajoutent leurs activités bénévoles officielles, 552 millions d'heures par an, selon Statistique Canada, notamment dans des centres d'aide d'urgence et des écoles. Ils ont aussi consacré 1,342 millions d'heures supplémentaires à des activités bénévoles informelles et non rémunérées. La majorité de ces heures de bénévolat informel est consacrée à soutenir directement des membres de leur famille, comme des parents, des enfants ou des frères et sœurs. pendant la pandémie de COVID-19, beaucoup de personnes ont ajouté 20 heures de soins à leur semaine de travail, que ce soit à la maison ou chez un membre de leur famille. Des aidants surchargés. Nous menons des recherches sur le vieillissement de la population et des individus. Nous avons vu les membres de nos familles se sentir coincés entre les soins à prodiguer à leurs parents et l'éducation de leurs enfants et négliger ainsi leurs besoins en matière de santé. Ce n'est pas surprenant, car environ une femme d'âge mûr sur 5 s'occupe d'un enfant et plus d'un tiers prend soin d'un adulte. On observe qu'en moyenne, un aidant fournit 35 heures de soins par semaine, et ce, depuis plus de 4 ans. 3 heures de plus par semaine suffiraient à le mener vers un état proche de la dépression. Dans le contexte économique actuel, la plupart des gens travaillent pour gagner leur vie plutôt que pour financer leurs loisirs et leur retraite. Ainsi, près de la moitié des aidants naturels au Canada doivent travailler à temps plein. Dans ce contexte, 6 sur 10 souhaiteraient avoir une forme de soutien officiel de l'État. Des études montrent que 4 aidants naturels actifs sur 10 ont peur de ne pas pouvoir payer leurs comptes. Pas étonnant que beaucoup d'entre eux commencent leur journée fatigués et stressés. Les jeunes adultes vivent plus longtemps chez leurs parents. De plus en plus de jeunes adultes de 20 à 35 ans vivent avec un parent. Ils ont davantage de chances d'épargner pour l'avenir en demeurant avec leurs parents. Des sondages récents révèlent par ailleurs que les adultes d'âge mûr ont en moyenne 300 000 $ de dettes et qu'ils sont préoccupés par les dépenses essentielles du ménage. Un tiers d'entre eux ne sont pas préparés à la flambée du coût de la vie, en particulier pour les dépenses de base et s'ils vivent déjà d'un chèque de paie à l'autre. Certains établissent même un lien entre l'évolution historique de la cohabitation des jeunes adultes avec leurs parents et l'augmentation de l'endettement des personnes âgées. Les adultes canadiens d'âge mûr ont également souffert d'une plus grande détresse mentale pendant la pandémie et se sont sentis davantage jugés et isolés que les Canadiens plus âgés. Les études indiquent que cette tranche de la population a peu tendance à utiliser les services d'aide communautaire pour des activités telles que la préparation des repas ou la remise en forme. Environ une personne sur 4 ayant eu besoin de services de santé a rencontré des difficultés pour y accéder. D'autres ont déclaré ne pas avoir pris le temps d'en trouver ou préféré se débrouiller seul. Une charge trop lourde. Selon une étude menée dans 20 pays, la satisfaction à l'égard de la santé à 60 ans est étroitement liée à la perception du vieillissement. Pour les quinquagénaires et les sexagénaires, le fait de devoir à la fois aider les jeunes générations et s'occuper de leur propre bien-être entame leur confiance en eux. Il est reconnu que consacrer du temps à des activités permettant de mieux se connaître et de prendre conscience de ses qualités constitue un investissement judicieux. Parallèlement, les priorités fédérales en matière de financement se concentrent sur les programmes de santé mentale destinés aux jeunes et la sensibilisation aux besoins des personnes âgées des adultes susceptibles de devenir proches aidants. Les adultes d'âge mûr constituent l'une des principales ressources de notre pays, en raison de leur rôle socio-économique et de leur soutien auprès des jeunes et des personnes âgées. Cependant, ils ont eux-mêmes besoin d'attention et de respect pour continuer à assumer ces rôles sans s'épuiser. Il est temps de demander aux Canadiens d'âge mûr quels sont les fardeaux qu'ils portent, si leur charge est trop lourde et comment ils la gèrent. C'est une discussion que nous devrions lancer. C'était « Les adultes d'âge mûr sont débordés par leurs différents rôles ». Un texte de Gail Lowe et Gloria Gottman, paru le 17 septembre 2025 dans La Conversation.
La fasciite plantaire, le problème du siècle. Un texte de Catherine Anfield, paru le 31 août 2025 dans La Presse. Carole Chagon, une lectrice de 65 ans, témoigne. Il y a 5 ans, au printemps, j'ai ressenti une douleur assez intense au pied droit. J'ai tout de suite consulté pour ne pas restreindre mes joutes de golf. Fasciite plantaire. J'ai vu plusieurs spécialistes, mais le problème est toujours présent. Y a-t-il espoir que ça guérisse? Est-ce plus répandu? J'ai l'impression que c'est le problème du siècle. En hausse, la fasciite plantaire est une inflammation du fascia plantaire, l'épaisse bande de tissu qui relie le talon aux orteils et qui supporte le pied. Ça a toujours été très prévalent, observe le podiatre Gabriel Moisan, professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Environ 10% des gens vont en souffrir au cours de leur vie. Est-ce en hausse? Difficile à dire. Les données sont limitées, mais ne révèlent pas d'augmentation nette depuis les années 1990, indique le physiothérapeute Yann Doiron. Par contre, certaines populations sont plus à risque. Les sportifs, les personnes obèses et les femmes. En vieillissant, le risque augmente. De 12 à 24 mois et plus. La fasciite plantaire est un problème qui, effectivement, peut s'étirer dans le temps. Elle peut guérir rapidement, surtout lorsqu'elle est prise en charge très vite. Mais en général, c'est plutôt long. On parle de 12 à 24 mois pour 3 patients sur 4. Le problème avec les pieds, c'est qu'on marche dessus tout le temps, résume Gabriel Moisan. Eh oui, constate-t-il, la fasciite a un haut potentiel de devenir chronique. Des chercheurs danois ont suivi 174 patients sur plusieurs années, et quand on les sondait 10 à 15 ans après leur diagnostic, plus de 40% d'entre eux rapportaient encore certains symptômes. Choc ou surutilisation. La fasciite plantaire peut être causée par un gros coup, comme tomber d'une échelle, ou une surutilisation, explique le podiatre Gabriel Moisan. Bref, la charge sur le fascia plantaire a été trop grande pour la capacité du corps, vulgarise-t-il. Le changement de paramètres est souvent en cause, constate le physiothérapeute Yann Doiron. Le cas typique, c'est au début de l'été, on change de chaussures, on se remet à la course, on marche plus souvent pieds nus, résume-t-il. En clinique, il voit souvent des gens qui ont développé une fasciite après de longues heures de jardinage, accroupis, le fascia bien étiré. Comment réagir? Le premier traitement, c'est d'essayer de protéger le fascia plantaire, indique Yann Doiron, d'abord en ralentissant immédiatement ses activités. C'est le principe du stress mécanique. Quand tu fais une activité, la douleur ne doit pas augmenter de plus de 2 sur 10. Et elle doit rapidement revenir au niveau initial, dit-il. On peut diminuer la durée de ces activités ou les scinder, comme 3 marches de 20 minutes, indique Gabriel Moisan. Si on dépasse le seuil de tolérance, c'est là qu'on se reblesse. Et à la longue, la structure du fascia peut devenir altérée, moins performante, plus dure à ramener, dit-il. Chaussures. Si la douleur augmente dès qu'on met du poids sur le pied, il faut trouver une façon de tricher avec du taping, une technique de bandage, et avec une chaussure qui enlève de la charge au fascia. Semelle rigide, support d'arche, talon mou. Quand ces patients trouvent les bonnes chaussures, Yann Doiron leur conseille de les porter tout le temps, même quand ils font la vaisselle. Quand le pied va mieux, généralement après quelques mois, le patient peut tranquillement réintégrer le nu-pied et les gougounes et revenir à des chaussures moins contrôlantes pour renforcer ses pieds. Certains patients, comme ceux qui sont âgés, malades ou en douleur depuis longtemps, s'en tiendront aux chaussures ou aux orthèses qui les soulagent, et c'est correct. Ne plus avoir mal, c'est déjà une belle victoire, indique Gabriel Moisin. Renforcement. Il existe un deuxième volet au traitement qu'on a tendance à négliger, constate le podiatre. Renforcer le fascia plantaire avec des exercices, des étirements et de l'activité physique. Le but, qu'il devienne aussi fort, voire plus fort qu'avant, pour éviter de se blesser à nouveau. Les exercices des muscles du pied et des mollets sont efficaces, indique Yann Doiron. Quant aux étirements, c'est bien d'en faire dans un stade subaigu quand l'inflammation est moins présente, indique le physiothérapeute. Il voit toutefois des patients qui, en stade aigu, étirent beaucoup leurs pieds en espérant guérir, mais ils s'irritent plus qu'autre chose, constate-t-il. D'autres traitements. Si la douleur persiste, d'autres avenues sont considérées, comme la thérapie par onde de choc radial pour stimuler la guérison, les orthèses sur mesure et les injections de cortisone. Des cliniques offrent aussi des injections de plasma riches en plaquettes, PRP, et même une intervention chirurgicale. Et les médicaments anti-inflammatoires? Les nouvelles normes de pratique les conseillent de moins en moins, indique Gabriel Moisin, qui rappelle que les cellules inflammatoires contribuent à la guérison. Yann Doiron n'est pas contre les anti-inflammatoires, mais rappelle ceci, ces médicaments ne doivent pas servir à dépasser le bon seuil de stress mécanique. Chronique. Quand la fasciite est rendue chronique, la phase de repos n'est évidemment plus indiquée. Yann Doiron insiste alors sur l'importance de trouver les bons paramètres, les bonnes chaussures. Puis, on construit là-dessus, dit-il. Chez ces patients, le plan de traitement est progressif, plus détaillé et plus exigeant, dit Gabriel Moisin. Le podiatre souligne l'importance malgré tout de rester actif, autant quand la fasciite est récente que lorsqu'elle est installée depuis longtemps. L'exercice permet de désensibiliser à la douleur, d'irriguer, d'envoyer de nouvelles cellules. Il ne faut juste pas y aller trop vite, trop tôt, conclut-il. C'était La fasciite plantaire, le problème du siècle, un texte de Catherine Anfield, paru le 31 août 2025 dans la presse.